Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Et donc cette semaine, il y a 8 nouveautés sur les écrans Manceau. Avignon, 28 ans plus tard, Enzo, Peacock, Sur la route de Papa, La Tournée, Elio et Knicap. Voilà certains films qui, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, notamment prévus aux cinéastes comme Lovable, ne sont pas sortis, mais ça, c'est pas très grave. On fait avec. Pour ce qui est de la programmation musicale, j'ai été chercher des titres dans, par exemple, Avignon. Ça, c'est un titre qui va plaire, qui va rappeler des souvenirs à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais c'est pas la programmation habituelle de Radio Alpa, je le reconnais. Vous allez voir, vous allez reconnaître. Et c'est dans Avignon qu'on entend ça.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, hey. Donne-moi ton bon vieux fantôme.
Et oui, c'est le titre mythique « Femme Like You » de Camaro, et ce titre, on l'entend dans Avignon. Et bien justement, c'est le moment de parler d'Avignon. Le film proposé au Pathé Quinconce au Méga CGR, c'est un premier long-métrage. Le réalisateur, c'est Johan Dionnet, acteur, réalisateur, scénariste. Il est acteur dans le film d'ailleurs, et auparavant, il avait réalisé 3 courts-métrages. Pierre, parle-nous de Johan Dionnet, bien sûr, mais surtout de Avignon.
Durée 1h43, comédie. Le synopsis, comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d'Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d'un quiproquo pour se rapprocher d'elle, Stéphane s'enfonce dans un mensonge qu'il va devoir faire durer le temps du festival, mais qui va très vite le dépasser. La revue de presse, Télé 7 jours avec Julien Barcillon, un bijou de rom-com. La Croix, le film baigné de lumière estivale et d'une douce mélancolie oppose avec finesse théâtre populaire et tragédie noble. Mais c'est surtout une déclaration d'amour au jeu, à l'illusion et à la ville d'Avignon qui devient le décor enchanté d'un amour naissant porté par la poésie de Corneille et la sincérité des cœurs. Le Journal du Dimanche, l'argument n'a rien de nouveau, qu'importe. Dialogue ciselé, rythme enlevé, second rôle inspiré, le charme opère. Première avec François Léger, tout va très vite, impossible de s'ennuyer. Le script malin et à l'os refusant les scènes de transition que certains réalisateurs considéreraient comme essentielles. L'Obs avec Xavier Le Herpeur, grand prix à l'Alpe d'Huez, cette comédie pleine de quiproquos rend hommage à tous les théâtres, du prestigieux au plus populaire, dans un éclat de rire communicatif. Télérama avec Johan Haddad, une comédie allègre et une belle ode à la scène. Et enfin, il y en a un qui n'a quand même pas aimé.
Ah, il n'avait pas aimé du tout.
C'est Ludovic Béot dans Les Inrecuptibles. Une comédie tristement fade où l'on cherche encore où est le théâtre et la vie. Comment peut-on faire une lettre d'amour à Avignon et y mettre si peu d'amour ? Soyons sérieux, passons notre chemin.
Eh bien non, ne passons pas d'autre chemin justement. Avignon s'est proposé au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Alors oui, c'est une comédie romantique qui respecte totalement les règles du genre, mais qui sort largement du lot par le contexte évoqué dans lequel elle se déroule. Et ce contexte, c'est le Festival d'Avignon, festival de théâtre bien connu, qui va démarrer fin juin, hein, début juillet. Et le film en montre les coulisses, et notamment les coulisses de ce qu'on appelle off. Hein. Il y a le festival officiel, il y a le off. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant pour peu qu'on s'intéresse justement au théâtre et aux sans-grades qui en rêvent et vivent difficilement de ce métier. Et ça, eh ben, on le découvre, ces coulisses du festival, à travers les aventures vécues par une troupe de café-théâtre dont on peut suivre les galères au quotidien. Alors, la comédie romantique, quant à elle, eh bien, c'est celle que vit Stéphane. Stéphane, c'est un jeune comédien de seconde zone qui recroise par hasard dans les rues de la ville Fanny, une fille comme lui, comédienne, qu'il a connue dans un stage quelques années auparavant et dont il tombe instantanément sous le charme, mais à qui il n'ose dire qu'il se produit dans une petite pièce de café-théâtre, lui faisant croire qu'il joue Rodrigue dans le Cid. C'est évidemment beaucoup plus prestigieux. Donc de quiproquo en quiproquo, Stéphane s'enfonce dans le mensonge, pendant qu'autour de lui, ben, ses compagnons connaissent aussi leurs petits problèmes amoureux ou professionnels. Alors les scénaristes, ils sont très malins dans ce film. C'est un film plein de subtilité, avec ses parallèles entre les situations vécues et celles des pièces de théâtre classiques comme le Cid ou Ruy Blas qui sont évoquées. Un scénario qui vraiment est un petit bijou très malin qui évoque donc les aléas du métier de comédien, les rivalités entre théâtre subventionné, théâtre privé, théâtre de comédie et théâtre sérieux, avec des seconds rôles très bien écrits, interprétés par la fine fleur de jeunes acteurs de théâtre. Alors, ils ne sont pas très connus, mais ils ont été souvent moliérisés ou nommés au dernier Molière. C'est drôle, c'est plein d'allants, sans temps mort. C'est plein de choses qui sentent le vécu d'une troupe jouant au festival off, d'où un aspect presque documentaire par moment. Vraiment un film que j'ai adoré, très agréable, avec Baptiste Le Caplain qui est très touchant. Et puis Elisa Erka qui est une révélation pleine de charme. On entendra tout à l'heure une de ses chansons parce qu'elle est aussi chanteuse. Et tout un casting digne d'éloge et avec un scénario bien écrit, très bien écrit, et je recommande chaudement, le terme est tout à fait approprié d'ailleurs, absolument, ça sera un de mes 10 films de l'année probablement, en fin d'année, Avignon, Omega CGR et au Pâté Quinconce. Ça ne sera pas un film de l'année, mais ça s'appelle 28 ans plus tard. C'est un film qui est proposé là aussi au Pâté Quinconce, Omega CGR, peut-être même au Colisée, je vais vérifier ça. C'est un film de Danny Boyle, réalisateur, scénariste, producteur britannique, acteur même à l'occasion, il est né en 56. Il a commencé par travailler pour la BBC, et puis le premier film qu'il avait réalisé en 2005 avait marqué les esprits. Ça s'appelait Petit meurtre entre amis, et ça avait révélé Ewan McGregor notamment, qui va devenir un de ses acteurs fétiches. 96, Trainspotting, avec toujours Ewan McGregor et Johnny Lee Miller. 96, Une vie moins ordinaire, avec Ewan McGregor et Cameron Diaz. 2000, La plage, adaptation d'un roman d'Alex Garland, qui est le co-scénariste de 28 ans plus tard. Alors, La plage, c'était avec DiCaprio, Guillaume Canet, Virginie Ledoyen. 2003, 28 jours plus tard, ben oui, c'était le premier de ce qui allait devenir une trilogie, avec Cillian Murphy. 2005, Million. 2007, Sunshine, avec Cillian Murphy. 2009, Slumdog Millionnaire, ça, c'est très, très célèbre, avec Dev Patel. 2011, 127 heures, avec James Franco, ça, c'était un film pas mal aussi. Hein. 2013, Trans. 2016, Steve Jobs, le biopic consacré à Steve Jobs, avec Michael Fassbender. 2017, Trainspotting 2, T2, exactement, avec, bien entendu, les mêmes qu'on retrouvait. Et 2019, Yesterday, avec Lily James, qui était un film tout à fait charmant, un film de fiction tout à fait charmant. Pierre, parle-nous de 28 ans plus tard.
Durée 1h55. Épouvante, horreur. D'ailleurs, ce film est interdit au moins de 16 ans. Le synopsis, avec Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Alfie Williams. Le synopsis... Cela fait près de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique. Alors qu'un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île, seulement reliée au continent par une route placée sous haute protection. Lorsque l'un des habitants de l'île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que non seulement les infectés ont muté, mais que d'autres survivants aussi, dans un contexte à la fois mystérieux et terrifiant. La revue de presse est très partagée. Cinéma Teaser, avec Aurélien Alain, un grand film qui ne ressemble à aucun autre. 20 minutes avec Caroline Vier. Le réalisateur inaugure une nouvelle trilogie horrifique avec cette fable politique aussi terrifiante que savoureuse. Ouest France avec Gaël Golen. Le réalisateur britannique livre un film de genre aussi viscéral qu'inventif. Paris Match avec Fabrice Leclerc. Alors oui, nous sommes dans du pur film de genre, plein de zombies tueurs à la tension incroyable. Mais voilà du cinéma de divertissement qui magnifie le genre et qui en a tellement entre les oreilles, magistral. Première avec Pierre Lune. Le réalisateur britannique retrouve son énergie punk et son style viscéral, alternant séquences de genre inventives et bien gore, et images poétiques saisissantes. L'interprétation impressionnante, notamment Ralph Fiennes, dans un rôle inoubliable, ouais, emporte l'adhésion malgré une intrigue parfois un peu brouillonne qui s'éparpille. Et maintenant, ceux qui n'ont pas aimé. Philippe Gage dans Le Point. On aura attendu presque 20 ans cette suite, à 28 semaines plus tard. Tout ça pour ça ? Dany, par pitié pour la suite, pose tes smartphones et fais-nous peur à nouveau. Là, tu nous donnes envie de mordre. Le Monde. Les tours de sale gosse de Boyle, Saïgor, déflagration sonore, mélange d'images sages et furieuses, se révèlent impropres à chasser les conventions parce que trop brouillon. Malgré la lourdeur d'ensemble, on retient quelques visions d'une Écosse dépeuplée rendue à ses vestiges. Et enfin, Libération avec Lelo Jimmy Battista, un ratage à peine croyable, dans lequel on croise également Ralph Fiennes, peint en orange de la tête aux pieds, ainsi qu'une bande de ninjas satanistes albinos. Leur apparition est d'ailleurs le seul moment réellement intrigant du film.
Et c'est vraiment tout à fait à la fin du film. Hein. Voilà. Bon, alors, 28 ans plus tard, quelle déception attend ceux qui avaient apprécié les deux films précédents. Donc, c'était 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, je crois. Et pour ceux qui s'attendent à un film de zombies du calibre donc, de ces deux opus, car ici, eh ben, quasiment deux heures de temps, il ne se passe quasiment rien. Alors pourtant, la séquence d'ouverture était très prometteuse avec cette attaque des infestés ou des infectés, je ne sais plus très bien comment on dit, dans une maison dont seul un enfant réchappe. Alors cet enfant, il en réchappe. On ne sait pas du tout ce qu'il devient, cet enfant, sauf que c'est tout à fait à la fin, qu'il réapparaît 28 ans plus tard. Bon, bref, on se retrouve 28 ans plus tard sur une petite île au large de la Grande-Bretagne. une île ayant échappé à la contamination et vivant en autarcie, reliée à la grande île, parce que parler de continent, ben non, la Grande-Bretagne, ça n'a jamais été un continent, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, moi, c'est le prodige géographique qui parle, donc je veux dire, la grande île, reliée à la grande île, par une sorte de cordon de terre. Donc, le film s'attache à suivre une famille de cette communauté, donc la mère malade, le père et leur fils, donc ces trois le film se focalise sur eux, et le fils est initié par le père à la chasse aux zombies lors d'une escapade sur le mainland, c'est comme ça qu'on dit dans la version originale, donc la terre principale. Alors ça nous vaut quelques scènes de combat bien gore là, que Pierre n'aurait pas supporté certainement, mais bon, voilà, c'est le meilleur du film, parce qu'après celui-ci se recentre essentiellement sur la relation mère-fils, et le film, vu sa conclusion, ne semble finalement être que la bande-annonce du prochain épisode, puisqu'on nous en promet deux à venir. Voilà, donc alors, que retiendra-t-on du film ? Alors, deux, trois épisodes zombiesques, qui rappellent les films précédents, notamment dans la façon de filmer, très immersive, avec une caméra qui s'agite dans tous les sens. C'est filmé à l'iPhone, on nous dit, hein, et un montage aussi survitaminé. On retiendra aussi un décor de cimetière mausolée, et c'est à peu près tout. Parce que moi, Ralph Fiennes, il ne m'a pas du tout impressionné, hein, du tout, du tout. On est loin de ce que promettait la bande-annonce et de ce qu'on était en droit d'attendre, vu les deux épisodes précédents qui avaient quand même bien marqué les esprits dans le genre film de zombies. Quant au sous-texte politique sur le Brexit évoqué par certains critiques, ouais, bah, laissez-moi rigoler. Hein. En fait, le film, c'est juste un petit film de survivalisme doublé d'un récit d'apprentissage bien ordinaire. J'étais très, très déçu par ce film dont la bande-annonce était très prometteuse. Mais bon, 28 ans plus tard, c'est quand même possible de le voir au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Moi, je l'ai vu en VO, donc il doit y avoir une VO possible tous les jours, mais il n'est pas au Colisée, j'ai vérifié. On passe à Enzo maintenant. Enzo, c'est un film qui est proposé uniquement par les cinéastes. Alors, ce film a la particularité d'être réalisé par Laurent Canté et Robin Campillo. En fait, Laurent Canté a écrit le film et c'est Robin Campillo qui l'a réalisé physiquement, puisque Laurent Canté est décédé entre-temps. Alors, quelques mots sur la filmographie de chacun d'eux. Robin Campillo, on l'a découvert avec Les Revenants, un film avec Géraldine Pellas, Jonathan Zakaï, avec Eastern Boy en 2013 avec Olivier Rabourdin. 2017, ça avait été, je crois, très, très césarisé. 120 battements par minute avec Adèle Haenel, Manuel Pérez Biscayart. Et puis 2023, L'île rouge avec Nadia Tereskiewicz. Quant à Laurent Canté, il avait réalisé, entre autres, Ressources humaines avec Jalil Lesper, L'emploi du temps, Vers le sud, Entre les murs, qui avait obtenu la Palme d'or à Cannes. Et puis des films comme L'atelier ou Arthur Rimbaud, pour parler des derniers. Voilà, donc le film de Laurent Canté et Romain Campillo dure 1h42. C'est l'histoire d'Enzo, 16 ans, apprenti maçon à La Ciotat. Pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures, le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la vie familiale, de la villa familiale, mais aussi de la vie familiale d'ailleurs. C'est sur les chantiers au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu'Enzo va entrevoir un nouvel horizon. Alors là, c'est l'unanimité dans la critique pour apprécier le film. Et ça commence par Catherine Ball dans Le Parisien. Enzo brosse avec beaucoup de délicatesse et de fougue le portrait d'un adolescent qui se cherche. Luc Chessel, un beau portrait d'ado en crise. Raccord à une autre présente, tissé d'incertitude, dit-il dans Libération. Pascal Vergerot pour West France déclare que le film est sensuel et sensible. Céline Rouden dans La Croix, l'ultime film du cinéaste, emporté par le cancer en avril 2024, a été réalisé par son ami Robin Campillo. Il mêle subtilement leurs deux sensibilités pour dresser le portrait d'un adolescent qui cherche à se confronter à la dure réalité du monde. Olivier Delcroix dans Le Figaro, un magnifique portrait d'adolescent, tendre et bouleversant. Olivier de Bruyne dans Marianne dit carrément que c'est une réussite majeure. Paris Match, Christophe Carrière, outre le talent d'écrivain de Canté, il y a la finesse de Campillo, capable de faire passer une émotion, un désir, un sentiment, en un plan, un geste, un regard. Télé 7 jours, Isabelle Magnier parle d'un brûlant récit d'apprentissage. Quant à Thierry Chaise dans Première, déclare que c'est un film d'une délicatesse, d'une puissance infinie, mêlant merveilleusement les univers des deux cinéastes, tant dans la manière de filmer les corps que de parler du monde du travail, ou d'inscrire le récit dans des temps agités que nous traversons, la guerre en Ukraine, jusqu'à l'ultime scène sublime et poignante, à la vie, à la mort. Et on pourrait en citer bien d'autres, parce qu'il n'y a pas la moindre critique négative à propos de ce film Enzo, proposé avec deux séances par jour aux cinéastes. Alors Enzo, ben pour moi, c'est un énième, ou plutôt une énième histoire d'ado paumé. Hein, voilà. Enzo, il a 16 ans. C'est un gosse de riche. Hein. Sa mère est ingénieure, son père prof de fac. Mais il a fait le choix de devenir apprenti maçon. Alors, même pas pour emmerder ses parents, encore que, bon, enfin, en tous les cas, ses parents l'auraient bien vu faire des études style école des beaux-arts. Des parents, d'ailleurs, à qui on ne peut rien reprocher. Ils sont bienveillants, ils sont protecteurs, mais pas forcément compréhensifs du choix de leur fils, hein, pour exercer un métier manuel, pour lequel, en plus, il n'est manifestement pas doué, dixit son patron. Mais voilà, Enzo préfère fréquenter ses collègues de chantier, et notamment Vlad, un ouvrier immigré ukrainien, que son frère et ses copains étudiants ou sa famille. Voilà, c'est sa famille bourgeoise. Donc le film, c'est un récit d'apprentissage, d'émancipation, assez classique dans sa forme. C'est filmé sans fioritures, c'est centré sur les personnages. Mais je trouve que le film, moi, s'essouffle très rapidement, au bout d'une heure. Et comme il dure 1h44, ça fait quand même un petit peu long. Alors donc, c'est un film qui... exprime donc le malaise existentiel de Enzo, un garçon mal dans sa peau, qui se cherche, qui tombe amoureux de Vlad. Alors les acteurs sont justes et convaincants, il n'y a pas de problème là-dessus, la réalisation sobre, le contexte de la guerre en Ukraine en arrière-plan, et puis c'est surtout, le film, c'est une peinture sociale. Mais moi, j'ai pas été aussi emballé que les critiques, en tous les cas, très loin d'être aussi emballé dans ce portrait d'adolescent en plein malaise, en quête d'identité. Bon, comme il y en a tant, en fait, hein, c'est un film qui plaît, on le voit, la critique professionnelle, dont les auteurs ont manifestement la carte, comme on dit. Hein. Bon, je suis loin d'être aussi élogieux, même si le film ne suscite pas vraiment d'ennui ni d'irritation, mais bon, une impression de déjà-vu, surtout. Voilà, Pierre.
Bah, je suis un peu comme ça.
Voilà, oui. Hein.
Alors, j'ai un petit préambule avant de parler d'Enzo.
Bon.
Je voudrais dire un grand merci à Malo, le directeur et programmateur des cinéastes, qui, à ma demande, a reprogrammé le documentaire japonais Black Box Diaries, un après-midi de la semaine à venir.
Ah.
Oui, parce que le soir, moi, j'aime pas trop sortir. Donc, si comme moi, vous n'avez pas pu voir l'unique séance prévue hier soir, surveillez la programmation des cinéastes pour la semaine prochaine. Je rappelle que ce documentaire traite des agressions sexuelles subies par les japonaises de la part de hauts fonctionnaires du gouvernement et le mutisme qui leur est imposé. Mais Shiori Ito, la réalisatrice, elle parle. Et son film est d'ailleurs nommé aux Oscars américains. Alors, Enzo, donc, ce film franco-italien, enfin surtout français d'ailleurs, a été présenté à Cannes en mai dernier dans le cadre de la quinzaine des cinéastes. C'est l'ultime film de Laurent Canté, il est décédé en avril 2024, et titulaire au passage de la Palme d'Or cannoise en 2008. C'était Entre les murs. C'est un film sur l'adolescence, en l'occurrence un jeune garçon de 16 ans, qui se cherche socialement et sexuellement, tiraillé entre l'hétérosexualité et l'homosexualité, socialement aussi, car Enzo est un fils d'une bonne famille, aisé, intellectuellement et financièrement. Et là, pour moi, c'est un petit peu difficile à croire quand même que ce jeune homme préfère être apprenti maçon plutôt que de poursuivre sa scolarité pour un meilleur avenir. Ouais, là, j'ai eu un peu de mal là-dessus. L'adolescence, donc. À ce propos, je voudrais citer Robin Campillo. L'adolescence, c'est le moment où on se prend des vérités en pleine gueule. Il dit aussi, l'adolescence est par essence tragique. Alors, à voir ou pas, je vous laisse le choix, mais je suis comme Michel, moi, un petit peu mitigé quand même.
Voilà, et ben, ça s'appelle Enzo, c'est proposé aux cinéastes avec deux séances par jour. Ben, dans Enzo, on entend cette chanson dans une scène de boîte de nuit. Le groupe The George Kaplan Conspiracy, le titre Move On sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Move On, The George Kaplan Conspiracy, un titre que l'on entend dans Enzo. Peacock maintenant. Peacock, c'est un premier film réalisé par Bernard Wenger, réalisateur scénariste autrichien. Il avait auparavant réalisé un court-métrage, c'est son premier long-métrage, je répète donc. Et le film Peacock est proposé au cinéaste avec une ou deux séances par jour. Peacock, ça dure 1h42. Le titre original, je ne vais pas me risquer parce que je n'ai jamais fait d'allemand, donc je vous l'épargne. Besoin d'un petit ami cultivé pour impressionner votre entourage, d'un fils parfait pour forcer l'admiration de vos clients, d'un répétiteur pour vous préparer à une dispute conjugale, louez Mathias, un maître dans sa profession, excellent chaque jour à se faire passer pour une personne différente. Mais quand Mathias doit être lui-même, le véritable défi commence. Eric Neuhoff dans le Figaro, un rire comme ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, cela constitue des vitamines pour l'esprit. Bon. Catherine Ball, le Parisien, le portrait de cet homme parfait, entre guillemets, en crise, se savoure jusqu'à son ultime pétage de plomb, totalement jouissif. Denitsa Bancheva pour la revue Positive, on peut reprocher au scénario d'être peu ou prou prévisible, mais pour son premier long métrage, Peacock révèle un talent doté d'une grande maîtrise de la mise en scène. Le Point, c'est un premier long métrage étonnant et réussi par le réalisateur autrichien Bernard Wenger, qui sonde à la perfection la marchandisation des rapports humains à l'ère du digital, la solitude et l'isolement. Augustin Pietron Locatelli pour Télérama, un humour sardonique, protestant, glacial. Pour peu que l'on se prenne au jeu, Peacock est un méchant plaisir. Le Monde, si le film peine parfois à décoller de son atmosphère comique bizarre, il révèle toute sa force subversive lors d'une scène où Mathias semble enfin avoir trouvé qui il est réellement. Chapeau à l'acteur au talent burlesque. Baptiste Thion pour le Journal du Dimanche, cette satire de notre société rongée par les faux-semblants, la superficialité et la dématérialisation des échanges déploie un ton oscillant entre la tragédie et la comédie, parfois tellement décalé qu'on a bien du mal à s'attacher à son héros, pourtant en plein naufrage existentiel. Reste la mise en scène particulièrement travaillée d'un jeune metteur en scène autrichien qui a un sens indéniable du cadre. Et enfin Thierry Chaise en première, le point de départ d'une farce satirique sur l'obsession du paraître au cadre soigné, mais dominé par la misanthropie, à force de ricaner de tout, la énième charge sur l'art contemporain, on ne dit plus rien de pertinent. Voilà, ça s'appelle Peacock, c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes avec une voire deux séances par jour. Bah, y a une idée de départ qui est vraiment originale et moi j'ai trouvé gâchée par une forme trop élaborée. Alors cette idée, donc, vous l'avez compris dans le synopsis, c'est celle d'une agence un peu particulière qui peut fournir à la demande une personne qui va jouer le rôle que le client désire, par exemple le rôle d'un ami, d'un parent, d'un expert en art, d'un répétiteur pour scène conjugale, et qui va ce rôle le jouer dans la vraie vie. Voilà, donc dans cette agence, bien Mathias, c'est le prestataire modèle, celui qui s'efface parfaitement derrière ses personnages, mais à force de s'effacer, il se perd lui-même, sa femme le quitte, il s'angoisse face aux conséquences de ses actes, bref, sa vie part en quenouille et il finit par péter les plombs. Voilà. Donc le problème du film, ben, c'est que l'auteur a choisi un humour froid et absurde et il prend une sorte de malin plaisir à désamorcer les situations drôles comme s'il voulait qu'elles ne soient pas trop drôles, ces situations. Il privilégie la forme avec ses plans très construits, son attention au décor, en un peu comme dans les films de Wes Anderson, hein, The Phoenician Shame qu'on a évoqué il n'y a pas longtemps. Et il demande à son acteur d'être le plus inexpressif possible, empêchant ainsi toute émotion. Et ainsi, au bout du compte, ben, l'ennui finit petit à petit par s'installer. Alors, dommage, je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à faire avec ce postulat de départ, mais c'est le choix du réalisateur, et donc ce choix, pour moi, ben, il n'est pas bon. Voilà, Pierre.
Peacock, le pan en oui. Français. Cet oiseau fait d'ailleurs quelques apparitions dans ce long métrage, mais sans toutefois faire la roue. Je vais reprendre encore aujourd'hui quelques mots du mensuel VO. Une farce, un humour ravageur. Fin de citation. Une comédie, donc. Eh bien, moi, désolé, mais je n'ai pas du tout été sensible à l'humour autrichien. Et je ne suis sans doute pas le seul, puisqu'à aucun moment je n'ai entendu quiconque rire dans la salle. Ce film, pourtant, a obtenu des prix au Festival du film européen des Arcs. Mention spéciale du jury jeune, prix du public. Ah bon ? Tiens, à propos, tu en as parlé, Michel, le film Lovable a obtenu le grand prix du jury, le grand prix de la meilleure actrice. Mais où est donc passé ce film
qui a été
annoncé pour mercredi dernier? Bah, c'est ce que m'a dit Malo hier. Oui, il m'a dit trop plein. C'est dommage parce que c'est le film qui m'attirait le plus cette semaine. Alors, pour en revenir à Peacock, à l'humour pas ravageur du tout, Je suis presque tombé en léthargie, réveillé par une forte musique disco, celle que l'on vient d'entendre d'ailleurs. Quant à l'image de fin, pour moi, c'est une fin en eau de boudin.
Voilà, donc ça s'appelle Picot, on n'a pas trop aimé.
Non.
Sous la route de papa, c'est un premier long métrage. Ils sont deux réalisateurs, Nabil Haïtakawali et Olivier Dacour. Olivier Dacour, si vous ne le savez pas, c'est le footballeur, ancien footballeur, qui a réalisé des documentaires et qui est consultant pour Canal+. Voilà, bon, pas, de toute façon, c'est leur premier long métrage et Olivier Dacour est en plus producteur de ce film. Le film est proposé au Pâté Quinconce, Oméga CGR et Pierre vous en parle.
Durée 1h31 avec Redouane Bougueraba, oui. Caroline Anglade et Farida Houchani. Le synopsis, prêt à partir en vacances, Kamel se retrouve obligé de changer ses plans à la dernière minute pour prendre la route du bled avec sa mère. À bord de la vieille Renault 21, un long périple commence pour Kamel et sa famille. Sur la route de son passé, les souvenirs et les rancœurs refont surface, révélant toute la beauté des liens qui les unissent. La revue de presse sera brève. Le Parisien, avec Sylvain Merle, avec Sur la route de papa, Olivier Dacour et Nabil Haïtakawali, je l'ai bien dit, signent un premier film frais et tendre, parfois maladroit dans sa facture, jamais dans son propos. Paris Match avec Christophe Carrière, premier film de Nabil Haïtakawali et Olivier Dacour. Sur la route de papa s'appuie sur des acteurs épatants, Redouane Bougueraba au volant. Et enfin Télérama avec Nicolas Didier. L'authenticité vient à la fois du casting solide avec l'humoriste Redouane Bougueraba, émouvant à contre-emploi, et Farida Houchani, grand second rôle méconnu du cinéma hexagonal. Et de l'attention aux détails.
Voilà, donc ça s'appelle Sur la route de papa, c'est proposé par le Méga CGR et le Pâté Quinconce. C'est typiquement le genre de film qui veut trop bien faire et qui, à cause d'une accumulation de maladresses scénaristiques, de mise en scène, voire de casting, en devient agaçant et finalement se rate. Pourtant, le thème était intéressant. Celui retour au bled, comme on dit, pour les vacances des immigrés, en l'occurrence ici une famille marocaine. En effet, pour réaliser le souhait de son père décédé il y a quand même des années, ce souhait de ramener sa vieille voiture Renault 21 avec laquelle le père a fait pendant des années avec toute la famille la route de retour au pays, eh bien Kamel, sa femme et ses deux adolescents et puis surtout sa mère quittent la banlieue parisienne direction le Maroc. Donc eh bien, on a un road movie comme on dit, au cours duquel eh bien remontent les souvenirs, les rancœurs du passé et du présent. Alors, y a Redouane Bougueraba. Bon, je l'aime bien, Redouane Bougueraba, mais il n'est pas du tout crédible en architecte qui renie au départ ses origines. Le film multiplie les épisodes, pas toujours crédibles, les situations maladroites ou peu vraisemblables. Beaucoup, beaucoup de scènes et de personnages semblent plaqués dans le but d'illustrer tel ou tel épisode ou fait marquant du passé, d'où un manque de rigueur dans le récit. Et puis, des enchaînements qui provoquent parfois l'agacement du spectateur, qui voit les bonnes intentions du film, bonnes intentions mal illustrées. Dommage, parce qu'il y a quand même aussi des moments de vraie émotion et une réelle tendresse pour les personnages, notamment pour le personnage de la mère dans ce film. Ce film, on le devine, en grande partie autobiographique, empreint de nostalgie, de bienveillance. Mais pour moi, c'est une nouvelle preuve qu'on ne fait pas forcément des bons films avec des bonnes intentions. Donc, je suis un peu mitigé sur la route de papa et j'aurai du mal à vous inciter à aller le voir. Cependant, la semaine prochaine, c'est la fête du cinéma et
ah oui.
Toutes les places seront à 5€. Donc, pour 5€, après tout, pourquoi pas?
Et puis, il y aura une vente d'affiches au cinéma.
Exactement, comme à chaque fois. La tournée maintenant. La tournée, c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Florian Essick. Florian Essick, c'est un réalisateur, scénariste, acteur né en 87. Il a fait quelques longs-métrages dans lesquels il est toujours présent, acteur, mais ses films sont rarement proposés au Mans, même si celui-ci est proposé au Colisée. Donc, on va citer quand même quelques-uns de ses films. En 2014, Le Casse des Casses, donc avec Florian Essick. 2017, La Légende. 2021, L'Instant Présent. Et 2022, Le Défi de Noël. Florian Essick, c'est pas faute de vouloir aller voir ses films, mais souvent, ils sont pas proposés ou très peu proposés. Et très mal critiqués, en général. On va voir que c'est pareil pour la tournée. 2 heures pour ce film. Acculé par les dettes après une longue traversée du désert, l'acteur Marius de Villeduc se voit contraint d'accepter le rôle principal du nouveau film de Richard Favard, un acteur-réalisateur prometteur et dont il ne connaît rien. Seulement, pour toucher l'intégralité de son cachet, une obligation, participer à la tournée d'avant-première. Aux côtés de Richard, Colette et Lulu, Marius se lance alors, bien malgré lui, sur les routes de France, dans un road movie chaotique et haut en couleur. Alors dans ce film, il y a quand même des gens comme Patrick Chesnais, Richard Berry et donc ce fameux Florian Essick. La revue de presse, elle est courte et elle n'est pas très bonne. Le Monde, si la tournée est pâtie de sa manière de jouer avec quelques clichés et d'un discours un peu bas du front sur les problématiques de représentativité posées par l'époque, le mélange de causticité et d'exploration des failles de chacun donne un résultat plutôt plaisant. Pauline Conradson dans Le Parisien, prometteur sur le papier, ce film avec un beau casting, Patrick Chesnais, Martin Lamotte, Richard Berry, Thierry Lhermitte, déçoit ce qui aurait pu être une bonne comédie qui vient titiller le milieu souvent snob du cinéma, se révèle plat et multiplie les maladresses au point d'en être gênant. C'est bien l'avis de Johan Haddad dans Télérama, une comédie horripilante, noyée dans les clichés réactionnaires. Pas eu envie d'aller le voir, ce film, la tournée, au Colisée, et il y a, je crois, que 2 séances par jour. Allez, petite pause musicale. Je vous ai dit que dans Avignon, il y avait une actrice qui s'appelle Elisa Erka, qu'elle était aussi chanteuse. Eh bien, dans le film Avignon, elle chante, et notamment au tout début du film, une chanson qui s'appelle « La mer à boire ». La mer, M-E, accent grave, R-E. Alors, ça va partir. Pas tout de suite, mais ça va venir, c'est sûr.
C'est pas la voilà. De l'entendre cette histoire. Pourtant, il pleut dans ma chambre ce soir. C'est pas la mer à boire, de caresser l'espoir. Pourtant, la douceur a du retard ce soir. Mes draps sont fâchés, mon oreille est coincée. Je voudrais m'en aller, mais je dors.
Elisa Erka, La mer à boire, une chanson que l'on entend dans le film Avignon, où elle est actrice, et elle chante également aussi une chanson qui est une reprise, une chanson que tu dois connaître, Faire un pont. Et ah Dick oui. Rivers avait repris ça.
Ah oui, oui. Hein.
Allez, Elio. Elio, c'est un film d'animation, c'est proposé au Colisée, au Pâté Quinconce, au Méga CGR. Ils sont 3 co-réalisateurs, Madeleine Sarafian, réalisatrice scénariste américaine, c'est le premier long métrage, Domi Shi, réalisateur scénariste canadien-chinois, les deux. Hein. Il avait auparavant réalisé Alerte Rouge, un film pour Disney+, un dessin animé. Et puis Adrian Molina, lui, il a été co-réalisateur de Coco, le film co-réalisé avec Lee Unkrich, et il est réalisateur mexicain-américain. Pierre, parle-nous de Elio.
Durée 1h39, aventure, animation, comédie, famille et science-fiction. Avec les voix de Nathan Dupont, Jonas Kibreab et Zita Enro. Le synopsis. Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses. Et cette fois, l'univers a répondu. Elio, un garçon de 11 ans, rêveur et passionné d'espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu'il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse, une organisation intergalactique rassemblant des représentants de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l'ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d'une mission aussi périlleuse qu'extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu'attachant, et sur sa tante Olga, qui veille sur lui depuis la Terre. Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu'il est le digne représentant des humains, tout en découvrant qu'il est vraiment et où se trouve sa place. La revue de presse, Ouest France avec Anaïs Bernot. Grâce à son animation sans faille et un récit joyeux, drôle et touchant, Elio nous transporte dans un univers flamboyant qu'on a bien du mal à quitter. Cinématiseur avec Aurélien Alain, une jolie réussite. L'Obs avec Nicolas Chaleur. Les plus jeunes n'auront pas de mal à trouver leur bonheur, tandis que les grands apprécieront la pique au projet SpaceX d'Elon Musk. Ici, on part dans l'espace en quête d'altérité, pas pour le coloniser. L'amusante critique du clonage et le regard bouleversant sur l'enfance face à la mort. Le Figaro avec Olivier Delcroix. Ambitieux, drôle, tendre, émouvant, Elio est à la fois un film sur la solitude, l'acceptation de la différence et un splendide hymne à l'amitié. Sans doute le meilleur Pixar depuis Vice Versa. Le Parisien avec Renaud Baronian. Bourré d'humour, d'émotion, de poésie, Elio, nouvelle production des studios Pixar, offre en prime une fascinante conception graphique de l'espace et des univers extraterrestres, via notamment une ahurissante galerie d'aliens de toutes tailles, de toutes apparences et d'inspirations les plus diverses. Merveilleux. Le Point, sans conteste le grand divertissement familial de l'été. Paris Match avec Yannick Velli. Rien ne résiste à l'émerveillement enfantin de découvrir un nouveau monde, ici le génial Communiverse, à être pris de vertige devant la représentation de l'univers. Les séquences animées sont sublimes ou juste touchées par l'amour d'une tante pour son neveu. Pixar a fait mieux, mais cela reste une valeur sûre. Télérama avec Augustin Pietron Locatelli. La magie Pixar d'antan semble à des années-lumière de ce film sympa, mignon même, mais banal quant à son récit et à son univers graphique. Et puis ça se gâte maintenant, avec Libération, Clément Colliot. À force d'appliquer une formule efficace mais trop rodée, le dernier Disney survole ce qui pourrait nous émerveiller. Et enfin Première avec Lisa Gatto. Après l'énorme succès de Vice Versa 2, les studios Disney Pixar se lancent dans une nouvelle histoire interstellaire qui manque d'originalité et de magie.
Nous n'avons pas vu Elio, mais on peut le voir au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Voilà. Bon, Knicap, c'est notre dernier film de la semaine. Il est proposé par les cinéastes. C'est un premier long métrage d'un réalisateur scénariste britannique, Rich Pipiat. Premier long métrage, durée de ce film, eh bien, 1h45. Knicap, groupe de rap irlandais et trio de Belfast, devient la figure de proue improbable d'un mouvement de défense des droits civiques visant à sauver leur langue maternelle. Leur langue maternelle, c'est le gaélique. Alors, eh bien, à l'exception du Point, tout le monde a aimé. Le Point, s'ils n'ont pas aimé, je vous explique pourquoi. Accusé de relier la propagande du Hamas, Knicap a aussi choqué en postant le 23 février dernier sur son compte X une photo de l'un de ses membres lisant un ouvrage à la gloire de Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, tué en septembre 2024 par une frappe israélienne. Une provocation pour le moins douteuse qui nous rend la bande et par ricochet cette comédie à sa gloire beaucoup moins sympathique. Voilà, sinon les autres, ben, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est Emmanuel Spalacenta en cinématiseur. Un film comme l'incursion par effraction de trois garnements dans un cinéma britannique qui ronronnait bien trop. Cyprien Cadéo dans L'Humanité parle d'un film survolté et réjouissant. Marc Aurel Garraud, La Tribune Dimanche. Quelque part entre Trainspotting et 8 Mile, il montre une jeunesse en lutte pour se réapproprier son identité, et ce avec tant d'humour, de talent et de sincérité qu'il est impossible de ne pas se laisser emporter. Adrien Gombeau, Les Échos, un film tonique, drôle et furieux, sur un trio de voix en lutte. La Rédaction d'Ouest France parle d'une ambiance électrisante et déjantée. La revue Première, au-delà de son humour, Knicap, célèbre la résistance linguistique comme acte politique, sans jamais tomber dans le piège du film socio. Impertinent, intelligent et fun, il bat au rythme d'une jeunesse qui refuse d'être réduite au silence. La Croix, le trio de musiciens provocateurs, drôles et farouchement libres, incarne une jeunesse désabusée mais combative qui transforme chaque rime en acte politique. Dans une esthétique punk et nerveuse, le film alterne entre satire mordante et gravité militante. Et enfin, Fabrice Leclerc dans Paris Match, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui Knicap rafle tous les prix dans les festivals et les cérémonies depuis plus d'un an maintenant. Voilà une sorte de Ken Loach 2.0, mélange sous substance de satire sociale et de musique. La belle surprise cinéma du mois. Nous ne l'avons pas vu parce qu'il n'y a qu'une séance par jour et pas forcément des heures qui m'ont intéressé. Mais c'est peut-être intéressant, allez voir.
Je ne l'ai pas vu parce que quand j'ai vu du rap, c'est pas ma tasse de thé, pas trop non plus.
Mais bon, il n'y a qu'une séance par jour et j'aurais pu éventuellement, mais ça ne passait pas dans mes créneaux. Allez, avant de vous annoncer les films à la fin de la semaine prochaine, je me fais un petit plaisir. Oui, parce que c'est une chanson qu'on entend, d'ailleurs quasiment intégrale dans le film Sur la route de papa. C'est Sacha Distel, La belle vie, un standard absolu. Oui.
Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
Sacha Distel, La belle vie, un titre qui est devenu un standard qu'on entend dans beaucoup de films très souvent, et c'est pas la première fois qu'on la passe à clap, surtout que moi j'adore Sacha Distel. Les films à l'affiche la semaine prochaine, on commence par les avant-premières, et il y en a beaucoup déjà ce soir. Si vous écoutez en direct vendredi, eh bien à 19h50 Omega et je crois que c'est à 20h au Colisée, 13 jours 13 nuits de Martin Bourboulon avec Roche Dizem et Lina Koudry, c'est très très bien, moi je l'ai déjà vu en avant-première. Ça raconte l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul au moment de l'arrivée des talibans, c'est très très bien comme film. Samedi, le cinéma Pathé vous propose en avant-première à 15h30 Amélie et la métaphysique des tubes, un film d'animation qui est adapté du roman de Amélie Nothomb. Voilà, on reste avec le film d'animation Pâté Quinconce, puisque dimanche, eh bien, à 15h30, il y aura Falcon Express en avant-première, et puis à 10h45, j'irai peut-être voir parce que ça s'appelle Marcel et Monsieur Pagnol. Moi, je suis un grand fan de Marcel Pagnol. D'ailleurs, à ce propos, le cinéaste reprend fait une rétrospective Marcel Pagnol en ce moment. Il y a eu Marius la semaine dernière, Fanny, ça, c'est top de top. Ça.
Ah oui, oui.
Ouais. Alors ensuite, lundi, il y a l'avant-première de F1, le film avec Brad Pitt sur la Formule 1. Ça sera à 20h au Pathé, à 20h au Méga et à 19h45 au Colisée. Malheureusement, partout, ça sera en version française pour le moment. Bon, On fera avec, hein. Sinon, la semaine prochaine, eh bien, beaucoup de sorties, puisque la fête du cinéma approche, ça sera le week-end prochain.
Oui.
Il y aura donc F1 de Joseph Kosinski avec Brad Pitt, Javier Bardem. Attention, ça fait 2h35, mon petit Pierre.
Ouais, puis ouais. La Formule 1,
c'est pas ton truc.
Je préfère les 24 heures.
Bon. Alors, ensuite, il y a Megan 2.0. Alors, c'est la suite de Megan. Oui. Ça, c'est un film d'horreur, c'est pas du tout pour toi.
Non.
Le film de Jean-Pascal Zadi, Le Grand Déplacement. Ça doit être une comédie, certainement. Ensuite, eh bien, 13 jours, 13 nuits, je vous l'ai dit. Et puis, les cinéastes. Alors, sortiront-ils tous les films qu'ils annoncent? That is the question. Mmh. Ils annoncent Reflet dans un diamant mort de Hélène Katté et Bruno Forzani. Je ne les connais pas, ces gens-là. Coln 75, c'est un film allemand.
Ah oui, ça, je veux le voir.
Ouais, ça a l'air pas mal, ça, oui, effectivement. Stranger Eyes, mon petit Pierre, ça m'a l'air bien coréen, cette affaire-là.
Ah, peut-être pour 2h05, moi aussi, alors.
2h05.
Et puis, oui, bon, ça va, 2h. Oui.
Eternal, Oula Salim. Voilà, donc, cette semaine, Pierre, ouais, recommande rien du tout.
Bah, pas vraiment, pas non. Vraiment. Sinon, je devrais vous conseiller d'aller voir Black Book Diaries.
Oui, mais c'est passé, là.
Faut attendre la semaine prochaine. Mais justement, ah bon, c'est la semaine prochaine.
Ah, d'accord, oui.
Peut-être jeudi, je suis pas sûr. Mais...
D'accord. Eh bien, moi, je vous recommande tout à fait Avignon. Même, je le recommande absolument à tous les gens que je croise actuellement.
Oui.
Je leur dis, allez voir Avignon.
Bah, c'est alors, le seul, voilà, apparemment, pour cette semaine. Hein,
qui ben, a... moi, c'est le seul que j'ai vraiment adoré. Ouais. Je vais pas détester Enzo, hein, c'est pas ça. Mais bon, oui, bon, voilà.
Bah, oui.
Allez. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, oui, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans pour Clap.
Au revoir.